Ce soir, nous allons voir la Semaine Sainte, mais dans les Évangiles. Et donc, nous allons prendre la page 338. Alors, je peux prêter deux Évangiles pour ceux qui voudraient suivre à deux. Et vous l'avez chez vous?
Oui, je l'ai chez moi.
Voilà. Et de toute façon, je lis. Donc, il n'y a pas trop de difficultés. Page 338 du « Si tu savais le don de Dieu », nom donné au travail du chanoine Weber, W-E-B-E-R, les quatre évangiles en un seul, qui a eu de multiples éditions à travers les années, et qui a été réédité par Tradition Monastique, les presses des bénédictins de Flavigny sur Oserin, 21150. C'était en 1913, et depuis, voyez-vous, ça fait toujours autant de bien. Nous sommes à la fin de la vie publique, notre Seigneur exaspère profondément les pharisiens, les sadducéens. Les pharisiens, ce sont les juifs observants. Les sadducéens, ce sont les partisans et les prêtres, le sacerdoce lévitique et les prêtres, dont le grand prêtre, qui est en soi sadducéen. Mais les prêtres avaient fini par avoir une foi très, très disparate, n'est-ce pas, dont certains ne croyaient pas à la vie après la mort. Ils pensaient que Dieu était créateur, que Dieu donnait la vie terrestre, mais qu'à la fin nous étions anéantis. Et ils étaient prêtres au temple de Jérusalem, s'il vous plaît. Donc les questions des Sadducéens ont toujours un trait à l'existence de l'âme après la mort. Ils nient par exemple, enfin ils disent au Christ... Mais alors, si quelqu'un s'est remarié, de qui elle sera le mari ou la femme après la mort? S'il s'est marié deux fois, trois fois, parce que là, finalement, les juifs étaient devenus monogames, alors qu'ils pouvaient être polygames, mais de fait, ils étaient monogames. Alors le Christ répond, eh bien, après la mort, ben, vous ne serez plus mariés, voilà. Vous serez comme les anges de Dieu. Alors là, ça les énerve énormément, puisqu'il leur dit qu'il y a une vie après la mort. Et comme je vous l'ai dit peut-être parfois, n'est-ce pas, si on a été marié deux fois dans sa vie, ou trois fois éventuellement, quatre fois c'est plus rare, mais l'amour que vous avez, c'est l'amour comme pour des enfants. C'est-à-dire qu'une mère de famille ou un père de famille aime son fils, sa fille, son fils, sa fille, s'il a quatre enfants. Et normalement, cet amour est égal, voyez. Eh bien, dans la vie éternelle, on aime sa première femme, on aime sa deuxième femme. Et cet amour est égal, il est personnel. Il n'est pas plus ou moins suivant telle ou telle personne. Voyez, il est ce qu'il est pour cette personne, il est ce qu'il est pour cette personne. Il n'y a pas de jalousie, puisque, comment dire, nous sommes dans une connaissance de Dieu et une connaissance de nos qualités et de notre être qui fait qu'on n'a pas de particularisme dur, si vous voulez. Bien sûr qu'on aimera plus telle ou telle personne dans la vie éternelle. Par exemple, sa maman ou son papa, n'est-ce pas? Mais, comment dire, c'est un amour en vérité après la mort. Et les Sadducéens aussi attaquaient la résurrection des morts. Parce qu'il niait l'existence de l'âme qui survit après la mort, mais il niait aussi du coup la résurrection. Il n'y a pas de corps à réanimer puisqu'il n'y a pas d'âme à mettre dedans. Oui. Donc les Sadducéens voulaient aussi tuer le Christ. Mais les pharisiens voulaient aussi tuer le Christ parce que le Christ leur demandait une charité authentique. Eux avaient fait tout un ordre qui leur permettait, par exemple, et c'est un des grands reproches du Christ qu'on oublie, c'est qu'ils consacraient leur héritage au temple, ce qui fait qu'ils ne pouvaient plus dépenser d'argent pour leurs parents, leurs vieux parents. Voilà. Donc ils ne s'occupaient plus de leurs parents en disant « mais mon argent est consacré au temple, donc je ne veux pas... » Voilà. des choses comme ça. Et puis vous aviez les zélotes. Alors les zélotes, c'était les partisans, enfin c'était ceux qui luttaient contre l'occupant et qui sont déçus par le Christ parce que le Christ ne prend pas le pouvoir. Donc tout le monde a une raison pour rejeter le Messie, alors qu'ils savent tous que c'est le Messie. Alors ils le savent plus ou moins confusément. Et saint Paul nous dit cependant quand même que ils ne l'auraient pas crucifié s'ils avaient su qu'il était le Seigneur de gloire. Voyez ? Mais ça, c'est pour certains. C'est pour la plupart. Mais pour les plus savants et les plus forts, pour les plus savants, saint Thomas d'Aquin précise bien qu'eux savaient qu'ils tuaient le Messie. Par exemple, le grand prêtre, il est très probable qu'il savait qu'il tuait le Messie. Vous voyez, ou tel savait que... Mais il ne voulait pas de ce Messie-là. Donc ils se mettent en guerre contre Dieu, puisqu'ils savent qu'il est le Messie. Mais c'est un petit nombre, les plus malicieux. Vous voyez. Dans la Passion, vous avez donc le fait, d'une part, de gens qui ne reconnaissent pas le Messie, parce que ce n'est pas le Messie qu'ils attendaient, d'une manière sincère, ou d'une manière malicieuse. Et nous-mêmes, si vous voulez, quand nous rejetons un peu le bon Dieu pour telle ou telle raison à tel jour, c'est parce que Dieu ne nous satisfait pas. Vous avez des juifs pieux, comme les pharisiens, qui disent « Mais tu dis que tu es la résurrection et la vie, que celui qui croit en toi ne mourra pas. Enfin, on meurt. Hein. Abraham, il est mort. Moïse, il est mort. » Donc, es-tu plus grand que Moïse ? Vous voyez ? Ça se brouille dans leur tête, parce qu'ils confondent la mort corporelle et la mort spirituelle. Et aussi, le fait de relativiser un peu la résurrection des corps. Or, sainte Marthe, elle, est une vraie juive, une sainte. Elle est là et elle dit... Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera » et elle, du tac au tac, parce qu'elle connaît bien les Écritures et le commentaire qui a été fait par de saints rabbins et de saints prêtres aussi. Il y avait des prêtres quand même qui avaient gardé la foi à Jérusalem et dans les villes lévitiques. Eh bien, elle dit au Christ « Oui, je crois que mon frère ressuscitera à la fin du monde ». Mais là, Jésus lui dit, il va ressusciter peut-être avant. Mais d'abord, elle pose un acte de foi dans la résurrection générale. Oui. Donc c'était déjà un article de foi dans la foi juive. Donc tout se mélange et tout arrive à un point de haine et d'agressivité. Vous voyez ? Parce qu'en fait, ce qui nous dérange avec Dieu, c'est que notre vie n'est pas parfaitement linéaire et tranquille. On n'a pas toujours une pleine santé, on n'a pas toujours une volonté merveilleuse de se lever le matin, on n'a pas toujours les relations les plus paisibles possibles avec ses parents, dans sa famille, dans son couple. On a des épreuves épouvantables parfois, donc... on se dit, mais Dieu, il est bien gentil, Dieu, mais enfin, la vie est quand même difficile. Hein. Et donc, on a envie ou de le quitter, ou de relativiser un peu, ou de pas lui parler beaucoup, ou de lui parler moins, ou de pas lui parler du tout, à certains moments de notre vie. Mais justement, le Christ nous dit bien, ça va être difficile, mais j'ai vaincu le monde. Et du coup, si vous voulez, même si on a parfois envie On fait des reproches à Dieu, en fait. Une des sources de notre tiédeur ou de notre... C'est le reproche. Mais c'est déjà plus digne, en quelque sorte, de... Enfin, plus digne. Non, c'est plus dangereux, pardon, de s'écarter de Dieu par indifférence et paresse. Au moins, quand on s'écarte de Dieu parce que on... on lui reproche que la vie est difficile, Au moins, on a quelque chose à lui reprocher. Mais si c'est simplement parce que on oublie, parce que justement, on est en pleine santé, que ça va bien, on a plein de loisirs, on a plein de plaisirs, c'est pire encore. Eh bien, tout se mélange dans la Passion et dans la Semaine Sainte, voyez-vous, tout le monde a une raison de le tuer. Et une manière de tuer le Christ, c'est de ne pas lui parler et de s'écarter de lui. En fait, les apôtres, eux, ils s'en vont. Il n'y a que Saint Jean et la Vierge Marie qui sont, et les saintes femmes, Sainte Marthe, Sainte Marie-Madeleine, qui sont au pied de la croix. Les autres, ils sont un peu loin. Ils ont toujours un peu peur de mourir, justement. Donc, page 338, le repas d'adieu. Et là, ce sont les évangiles de la semaine sainte, du lundi saint, mardi saint, mercredi saint. Alors, il y a les quatre passions qui vont être lues à partir du dimanche des rameaux. Mais le lundi, mardi et mercredi saint, c'est très beau parce que le Christ est à une demi-heure de Jérusalem, à Béthanie. Et il y a le dernier repas. 6 jours avant la Pâque. C'est très précis. Hein. Jésus arrivait à Béthanie, où était mort Lazare, qu'il avait ressuscité. Il fut invité à souper chez Simon le lépreux. Marthe s'occupait du service. Lazare, son frère, était l'un des convives. Pendant le repas, Marie, et Marie-Madeleine, prit dans un vase d'albâtre une livre de parfum, du nard le plus pur et le plus précieux. Et brisant le vase, le haut du vase, elle en répandit le contenu sur la tête de Jésus qui était à table. Imaginez. Puis il loignit les pieds du Seigneur et les essuya de ses cheveux. La maison entière fut embaumée par l'arôme de ce parfum. À cette vue, l'un des disciples, Judas Iscariote, celui qui devait le trahir, fit cette réflexion. Pourquoi n'avoir pas vendu ce parfum, 300 deniers, qu'on aurait distribué aux pauvres? Il parla ainsi, non qu'il s'inquiétât des pauvres, mais c'était un voleur. Il tenait la bourse et gardait ce qu'on y déposait. Quelques autres disciples se révoltèrent, eux aussi. Pourquoi cette inutile dépense, dirent-ils? On aurait pu vendre très cher ce parfum et le prix on l'aurait donné aux pauvres. Et ils frémissaient d'indignation contre Marie-Madeleine. Jésus prit la parole. Laissez cette femme, pourquoi lui causez-vous de la peine? Et là, c'est de l'argent gâché. Non, c'est pour Dieu. C'est comme, alors bien sûr, il y a des calices en or massif qu'on peut fondre en temps de misère. Mais tous les calices, là, sont en argent. Vous savez, l'argent, actuellement, c'est 13 euros la pièce d'argent. En poids d'argent, c'est rien du tout, un calice. C'est peut-être 200 euros. Même pas. Ils sont dorés, à l'or fin. Bon. Mais la valeur d'un calice, c'est surtout le travail de l'artiste de nos jours. Et plus ils sont anciens, c'est une antiquité. Donc quand vous faites fondre un calice en argent, vous avez tant de grammes d'argent et puis vous avez quelques grammes d'or. Bon, ça n'a rien à voir avec l'objet qui magnifie le fait qu'il reçoit le sang de Dieu. En plus, les calices durent longtemps. C'est une dépense ponctuelle. Et puis, vous voyez, sur les 4 calices de la paroisse, vous en avez un qui a 300 ans, l'autre qui a 2 qui ont 100 ans et un qui en a 50 ou 70. Alors, c'est une bonne œuvre qu'elle accomplit envers moi. Ben pourtant, hein, 10 000 euros pour un parfum, c'est un peu du luxe. Hein. Des pauvres, vous en avez toujours parmi vous. Et la traduction la plus forte, c'est « vous en aurez toujours ». Et vous aurez toujours assez d'argent pour les aider. Et vous leur ferez du bien quand vous le voudrez. Ça, c'est plus du commentaire hein, du chanoine Weber. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Vous voyez? Alors vous allez me dire, mais vous nous avez dit que Jésus, il était là dans le tabernacle. Oui, il est là. Enfin, par rapport à sa présence corporelle première, c'est quand même bien que dans la Sainte Hostie, il soit présent corporellement aussi. Et c'est la raison pour laquelle les ciboires, c'est le vase sacré où on met les hosties, sont beaux, sont dorés à l'intérieur, et pour recevoir notre Seigneur. Mais enfin, si on l'avait devant nous, comme ceux qui en ont eu les apparitions, on pourrait lui demander « Mais Seigneur, qu'est-ce que vous faites en ce moment ?» Et il nous dirait « Mais vous savez, je n'ai pas converti tout le monde quand je suis venu pendant 33 ans sur Terre. J'en ai laissé des crapules. Cette femme a fait pour moi ce qu'elle a pu. En répandant sur mon corps ce parfum, elle a préludé à ma sépulture. Elle a anticipé ma sépulture. » Et c'est impressionnant, parce qu'elle verse sur la tête, imaginez. Ensuite, elle verse sur les pieds, et elle essuie avec ses cheveux la poussière du chemin. On ne se rend pas compte du geste que ça représente. Et les autres, ils sont là, ils pensent à l'argent. C'est déjà quelque chose. Mais au moins, mais vous voyez, c'est vraiment les saintes femmes. En vérité, je vous le dis, dans le monde entier, partout où sera prêché, partout où sera prêché cet évangile, on racontera ce qu'elle vient de faire et on louera sa mémoire. Vous voyez, nous sommes en 2017 et on raconte toujours ce qu'a fait Marie-Madeleine. C'est assez impressionnant, hein? C'est une prophétie et elle est accomplie, elle s'accomplit. C'est très impressionnant. Moi, il ne faut pas négliger ça. C'est très impressionnant. Vous voyez, on dit on voudrait des guérisons miraculeuses, des résurrections. Mais je peux vous assurer que le fait qu'on parle d'un geste d'une sainte femme qui a eu lieu il y a 1990 ans, c'est miraculeux. Enfin, humainement, c'est très très improbable qu'on connaisse Marie-Madeleine plus que Jules César. Oui. Dès qu'on sut à Jérusalem que Jésus était à Béthanie, une grande multitude de Juifs s'y rendirent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Ils voulaient le voir. Or, les princes des prêtres, considérant qu'il y avait là pour beaucoup de Juifs un motif de s'éloigner d'eux et de croire en Jésus, conçurent le dessein de faire mourir Lazare lui-même. Et alors, petit détail historique. Ça, c'est le commentaire du chanoine Weber, mais c'est intéressant pour la France. Comme si par là, il pouvait lier les mains à Dieu. Note B de la page 340. La tradition nous apprend que plus tard, ils voulurent mettre leur dessein à exécution. Ils firent monter Lazare et ses sœurs et quelques disciples sur une vieille barque dépourvue de rames et de gouvernail qu'ils lancèrent dans la Méditerranée. Alors bien sûr, les exégètes modernes nous disent « c'est faux ». Si la gare Saint-Lazare, qui est la gare de Paris qui va jusqu'à Marseille, s'appelle comme ça, c'est parce que les gens étaient stupides, crédules et superstitieux et qu'ils ont totalement inventé ça. La barque vint échouer au rivage de la Gaule, près de Marseille. Lazare devint l'apôtre de cette ville et y subit le martyre, 30 ans après sa résurrection. Marthe évangélisa la contrée et la ville de Tarascon. Quant à Marie-Madeleine, elle se retira dans la solitude sauvage de la Sainte-Baume, qui est une montagne, jouissant parmi les larmes de sa pénitence de la meilleure part qu'elle avait choisie et qui ne lui fut jamais enlevée. Elle est enterrée à la Sainte-Baume, elle a été déposée à la Sainte-Baume et ensuite honorée, et son crâne, on dit que la peau du front, voyez, où le Christ l'avait touché, est resté sur son crâne très longtemps, voyez, et a fini par tomber. Et il y a une coiffe qu'on met sur la tête, le crâne de Sainte Marie-Madeleine à la Sainte-Baume, et qui a été changée il y a, en 2012-2013. Cette coiffe est en soie qui est mise sur le crâne de Sainte Marie-Madeleine, est changée tous les 100-200 ans, et j'en ai un petit morceau. Voyez. Donc ça s'appelle une relique de contact. Voyez. Voilà. On met. Voilà. Alors, notice sur Jérusalem, page 341. Jérusalem, en hébreu, vision de paix, doit probablement son origine à Melchisédek, prêtre du vrai Dieu, au temps d'Abraham. Alors, elle s'appelait Salem, et Melchisédek en était le roi. Quand les Hébreux entrèrent dans la terre promise, les Jébuséens occupaient, sur le mont Sion, une forteresse rendue inaccessible, et par ses ouvrages de défense, et par les profonds ravins qui l'entouraient. Il lui avait donné le nom de Jébus, d'où les Jébuséens. Joab, général des armées de David, s'en empara, et la cité comprenant désormais l'ancienne Salem et la citadelle conquise, prit le nom de Jérusalem, et devint la capitale du peuple de Dieu, la ville sainte. David l'enrichit de superbes monuments et Salomon, son fils, y fit bâtir le temple merveilleux qui porte son nom, le temple de Salomon, pour recueillir l'Arche d'Alliance. Elle fut pillée par Sésac, roi d'Égypte, dévastée par Joas, roi d'Israël. Quand les Juifs se sont séparés, enfin les Hébreux se sont divisés entre 2 tribus et 10 tribus sur les 12, le royaume du Sud, c'était la tribu de Juda et de Benjamin, avec le roi, les descendants de David. Et les 10 tribus du Nord, c'était le royaume d'Israël. Et c'était des généraux et leurs descendants, pour quelque temps avant leur assassinat, qui étaient les rois du Nord. Mais Jérusalem a été, donc il se disputait, et à un moment donné, Joas a attaqué Jérusalem. Mais c'est surtout Nabucodonosor, babylonien, qui détruisit Jérusalem d'une manière assez forte, et qui a détruit le temple. Après un exil de 70 ans à Babylone, les restes de la nation sainte rentrèrent dans leur patrie sous la conduite de Zorobabel. La ville et le temple se relevèrent péniblement et c'est un tout petit temple qui a été refait. Il n'y avait plus l'Arche d'Alliance qui avait été cachée par le prophète Jérémie. Mais rien ne rappelait leur ancienne gloire. L'infortunée cité fut prise ensuite successivement par les rois de Perse, par Alexandre le Grand et enfin par Antiochus, qui était un mi-égyptien, mi-grec, mi-grec, mi-égyptien, qui la ruina de fond en comble. Les Hébreux Maccabées, qu'on appelle les Maccabées, la rebâtirent, mais elle finit par tomber au pouvoir des Romains, commandés par Pompée, le général. Les vainqueurs gardèrent leur conquête jusqu'en 638 après Jésus-Christ, où elle passa sous la domination des Arabes. Vous voyez, ça a toujours été une province romaine, et ensuite de l'Empire byzantin. Au temps de notre Seigneur, elle était redevenue la cité d'une beauté parfaite. Pourquoi ? Parce que Hérode le Grand, qui régnait sur les Juifs au nom de l'empereur Auguste, avait entrepris de relever ses murs, ses tours et ses palais. Il n'avait rien négligé, surtout pour donner au temple une splendeur qui devait effacer celle du temple de Salomon, plus ou moins. Le petit temple avait été conforté par de nouveaux murs, de nouvelles colonnes. Mais en fait, c'était le deuxième temple, toujours, qui était sous les enrichissements d'Hérode. Donc quand, en l'an 70, nous disons ailleurs le siège épouvantable que Jérusalem subit sous Titus et Vespasien, et sa destruction totale par les armées romaines 37 ans après le crime du calvaire, c'est-à-dire en l'an 70. Voici le triste tableau que nous a tracé Chateaubriand de la Jérusalem moderne. Vu de la montagne des Oliviers, Jérusalem présente un plan incliné sur un sol qui descend du couchant au levant. Une muraille crénelée, fortifiée par des tours et un château gothique, des croisées, enferme la ville dans son entier, laissant toutefois au dehors la montagne de Sion qu'elle embrassait autrefois. Dans la région du couchant et du centre de la ville, vers le calvaire, les maisons se serrent d'assez près, mais au levant, le long de la vallée du Cédron, on aperçoit des espaces vides, entre autres, l'enceinte qui règne autour de la mosquée bâtie sur les débris du temple et le terrain presque abandonné où s'élevait le château Antonia, la forteresse romaine. Les maisons de Jérusalem sont de lourdes masses carrées, fort basses, sans cheminées et fenêtres. Elles se terminent en terrasses aplaties ou en dômes, et elles ressemblent à des prisons ou à des sépulcres, ça c'est Chateaubriand. À la vue de ces maisons de pierre enfermées dans un paysage de pierre, on se demande si ce ne sont pas là les monuments confus d'un cimetière au milieu d'un désert. La mosquée du dôme est au-dessus du rocher d'Abraham. Et donc, et l'esplanade des mosquées est sur l'esplanade du temple. Donc si vous voulez reconstruire le troisième temple, il faut détruire toutes ces mosquées, dont la mosquée d'Al-Aqsa, je pense, ou la mosquée du Dôme. Mahomet a été transporté d'Arabie à Jérusalem, et Mahomet serait monté vers le ciel avec un cheval ailé, Pégase, comment dire, à partir de ce rocher, ayant parlé à Moïse, à Abraham, et à Jésus sans doute. Vous voyez, donc cette croyance musulmane fait de ce lieu un lieu très sacré. Donc si on détruit la mosquée qui est dessus, ça va mal se passer. Le troisième temple. Il n'est pas encore construit, mais il sera construit pour acclamer l'Antéchrist qui sera le Messie. Acclamé par les Juifs. Non pieux, parce que les Juifs pieux ne reconnaîtront pas l'Antéchrist qui sera pour l'euthanasie, l'avortement, la liberté sexuelle. Ça, c'est... Les Juifs pieux vont dire ça, c'est pas le Messie. Même si le temple est reconstruit, même s'il rentre dedans et qu'il gouverne le monde à partir de ce temple, avant ou après une guerre, de toute façon, les Juifs pieux vont se poser de graves questions. Mais le jour où le troisième temple de Jérusalem sera reconstruit et que le Messie, le faux Messie, l'Antéchrist, y pénétrera, eh bien, si les Juifs pieux, justement, le rejettent, ils se diront, mais qui est notre Messie si c'est toujours pas lui? Mais probablement deviendront-ils, suivant la prophétie de saint Paul, et même de notre Seigneur, vous ne me reverrez que lorsque vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est un signe du retour de notre Seigneur. La conversion des Juifs. Quand vous verrez des millions de Juifs se convertir et se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, dites-vous que c'est pas loin, hein, l'Apocalypse. Si vous n'avez pas déjà eu des épisodes de l'Apocalypse avant. Mais la conversion des Juifs est un élément capital de la fin des temps. Page 343. Les rameaux. Le lendemain du sabbat, Jésus se rendit à Jérusalem, le dimanche. Comme il approchait de Bethphagée, non loin de Béthanie, sur le mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples. « Allez à ce village qui est devant vous, leur dit-il. En y entrant, vous trouverez une ânesse, attachée avec son ânon, sur lequel personne encore ne s'est assis. » Déliez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande « Que faites-vous là ? Pourquoi les détachez-vous ? Au voleur ?» Vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt, on vous permettra de les emmener. Il faut savoir que la monture des rois, c'était l'âne, parce qu'il avait été interdit comme signe de richesse païenne d'avoir le cheval. Donc le roi David était monté sur un âne. Et donc le fait que le Christ soit monté sur un ânon pour rentrer à Jérusalem, ça signifie qu'il est le descendant de David et qu'il est le roi d'Israël. Mais ce ne sera pas un roi temporel. Mais il dit à Ponce Pilate qu'il est roi. Les envoyés partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils trouvèrent les animaux attachés dehors, à la porte, entre deux chemins et les délières. « Que faites-vous ? » leur dirent les maîtres qui étaient là. « Et pourquoi détachez-vous cet ânon ?»« Le Seigneur en a besoin, » répondirent-ils. On les laissa faire. Ils amenèrent à Jésus l'ânesse et son petit, puis, étendant leur manteau sur l'ânon, on y fit asseoir le Seigneur.